Quatrième partie, chapitre premier. Hélène était depuis 6 mois à Ivrange, et les difficultés qu'elle avait pu prévoir à son arrivée s'étaient réalisées, allant plutôt au-delà des probabilités que restant en deçà. La rentrée des élèves avait été piteuse et telle que si elle n'avait pas eu des petites Anglaises, filles d'ouvriers protestants, employées dans une fabrique d'épingles, ce n'eût guère été la peine d'ouvrir son école. En tout, 28 élèves, dont 10 élèves entretenus par la commune, les autres des filles de cultivateurs, d'artisans, de marchands. Pendant qu'elle se morfondait dans sa classe, à attendre les élèves qui ne venaient pas, elle avait eu le crève-cœur d'entendre les élèves des sœurs passer devant son école, se rendant en chantant à l'église, où l'abbé Périchard célébrait la messe pour appeler sur elle la bénédiction divine. Elle n'avait pas pu les voir défiler, mais elle avait pu les entendre, et aux voix, elle avait reconnu combien elles étaient nombreuses. D'ailleurs, lorsqu'elle était remontée chez elle pour déjeuner, sa grand-mère l'avait renseignée à ce sujet. « Les élèves des sœurs ont passé en procession. Je les ai entendues. Moi, je les ai comptées. Elles sont 126. Tu vois la différence? Voilà ce que c'est que d'être en guerre avec les prêtres. Tout ce qu'il a de bien à Ivrange les suivait, en chantant avec elles. C'était superbe. » 126 élèves d'un côté, avec tout ce qu'il y avait de bien à Ivrange, de l'autre, 28 élèves, avec tout ce qui ne comptait pas, les sœurs pouvaient être fières de ce triomphe. Cependant, elles ne s'en étaient point contentées, et ces 28 élèves, on n'avait pas voulu les laisser à l'institutrice communale. Un jour, peu de temps après la rentrée, une de ces 28 élèves n'arriva pas à l'heure de la classe. Hélène était trop soigneuse pour ne pas constater tout de suite une absence. Celle qui manquait était la fille d'un boucher, une grosse gaillarde de 11 ans qui semblait bâtie pour défier la maladie. « Savez-vous, jeune chapeauteau ?» demanda-t-elle. Dix voix répondirent « Non, mademoiselle. Est-elle malade ?» Toutes ces voix, si promptes à répondre quelques instants auparavant, se turent instantanément. Les petites filles baissèrent la tête, et en dessous, elles se regardèrent en tâchant de prendre un air indifférent. Enfin, l'une d'elles se décida. « Je ne sais pas, mademoiselle. » Puis aussitôt, dix autres, « Nous ne savons pas, mademoiselle. » Hélène n'était pas assez naïve pour se laisser prendre à ses réponses et à ses airs innocents. Assurément, il y avait quelque chose là-dessous. Mais elle n'était pas assez maladroite pour le demander directement, ce qui n'eût servi à rien. À la suspension de la classe, au lieu de monter chez elle pour déjeuner, elle se rendit chez le boucher Chapoteau, voulant faire son enquête elle-même, directement. La bouchère était dans sa boutique, occupée à couper un morceau de viande. En voyant entrer Hélène, elle resta le cou prélevé, puis elle se remit à sa besogne la tête basse. « Tout à l'heure, mademoiselle, je suis à vous. » Bien que la bouchère ne se pressât point et qu'après avoir pesé sa viande, elle se fût lancée dans un bavardage insignifiant avec sa pratique, comme si elle n'avait d'autre but que de gagner du temps, il arriva un moment cependant où elle dut venir à Hélène. « Je n'ai pas vu Jeanne ce matin, » dit celle-ci. « Je viens savoir pourquoi. Est-elle malade ?»« Malade ? Non. » « Je vous remercie bien de votre honnêteté. C'est vous qui lui avez permis de manquer l'école ? Oui. Puis-je vous demander pourquoi ?» Au lieu de répondre, Madame Chapoteau se montra de plus en plus embarrassée. Hélène attendait. Enfin, la bouchère prit son courage. « Au fait, le mieux est de s'expliquer franchement. Vous êtes une honnête personne, Mademoiselle Marguerite, pour qui tout le monde n'a que de l'estime. Et sûrement vous êtes trop intelligente pour ne pas entrer dans des raisons raisonnables. Voilà ce que c'est. C'est Chapoteau qui a voulu placer Jeanne dans votre école. Moi, je vous le dis franchement, je voulais les sœurs. Non, parce que j'aime les sœurs. » Elle baissa la voix en regardant dans la rue, à travers les quartiers de viande accrochés à l'étal. « Au contraire, orpheline de père et de mère, j'ai été élevée dans un couvent. Je connais les sœurs. Mais justement, parce que je les connais, je me doutais de ce qui allait arriver et je voyais ce qui se préparait. Ça n'a pas manqué. D'abord, on a su que nous vous donnions Jeanne. Toutes nos bonnes pratiques nous ont fait des observations. Puis, comme les observations ne réussissaient pas, des difficultés. Rien n'allait plus. Nous ne contentions personne. Nous avions tort toujours. Il est vrai que d'autres de nos pratiques nous approuvaient, mais celles-là, ce n'étaient pas les bonnes. Que voulez-vous? Quand on est dans le commerce, on estime que ceux qui vous font gagner de l'argent. Cependant, malgré tout, nous persistions à vous laisser Jeanne. Mais voilà que la semaine dernière, on fait appeler Chapoteau au château. Moi qui me doute de quelque chose, j'y vas, parce que je connais mon homme. Il aurait fait quelques coups de tête. Et vous savez, le château, c'est notre meilleure pratique. En moyenne, 100 livres de viande la semaine. Madame me règle ma note, puis elle me dit que nous devons nous séparer, que je fais élever ma fille avec des excommuniés et qu'elle ne peut pas avoir des affaires avec les ennemis de la religion. Je lui dis tout ce que je trouve, rien n'y fait. Je reviens à la maison conter la chose à mon mari. Pendant mon absence, voilà que mademoiselle de la Buissonnière m'avait fait dire d'aller la voir. Je me doute que de ce côté aussi ça se prépare mal. Et vous savez, après, le château, c'est mademoiselle de la Buissonnière qui est notre plus forte pratique. 60 à 80 livres de viande par semaine pour elle, sans compter ce qu'elle nous donne en bon. Je ne me trompais pas. Avec mademoiselle de la Buissonnière, c'est la même chanson. Elle ne veut pas non plus avoir des affaires avec les ennemis de la religion. Dame, nous avons cédé, et ce matin nous avons envoyé Jeanne chez les sœurs. Que voulez-vous? Avant tout, il faut vivre, n'est-ce pas? Hélène ne pouvait pas répondre qu'elle ne vivrait pas, elle, si on lui retirait ses élèves, car cette raison n'eût assurément pas touché la bouchère. Elle ne répondit donc rien. « Vous savez, » dit Madame Chapoteau en la reconduisant, « nous ne vous en voulons pas. Vous avez notre estime, Mademoiselle Marguerite, et tant que vous vous servirez chez nous, les meilleurs morceaux seront pour vous. » « Si les choses continuent ainsi, » dit Hélène avec un triste sourire, « le moment arrivera bientôt où nous n'aurons pas à nous inquiéter de notre boucherie. »« Ne dites pas ça, mademoiselle. Vrai, ça me fait deuil. » Hélène n'avait pas tort de prévoir que les choses pouvaient continuer ainsi. Deux jours après, une autre élève avait manqué à l'entrée en classe, mais cette fois Hélène n'avait point osé demander s'il était malade ou pour quelle cause elle ne venait pas. Le soir, les élèves partis, elle avait été chez les parents de cet enfant qui étaient des loueurs de voitures. Elle les avait trouvés à table, le mari ainsi que la femme, avec leur petite fille entre eux. « Je vois avec plaisir que Fémie n'est pas malade. » « Non, mademoiselle, pas malade du tout. » Et le mari et la femme s'étaient plongés dans leur assiette, tandis que la petite Fémie regardait Hélène avec un air d'effroi. À la fin, les parents, comme l'avait fait la bouchère, se décidèrent à avouer la vérité. Leurs deux meilleures clientes étaient mademoiselle de la Buissonnière et les sœurs qui, à chaque instant, louaient des voitures pour des pèlerinages, des promenades, des retraites. Et elles menaçaient de les quitter s'ils continuaient à envoyer leurs filles à l'école laïque. « Que nous avons du chagrin, » dit la femme. « Nous qui vous estimons tant, mademoiselle, et Fémie qui vous était si attachée. » Et de nouveau, Hélène entendit le mot que lui avait dit la bouchère. « Que voulez-vous? Avant tout, il faut vivre, n'est-ce pas? » « Et moi, » se dit Hélène en revenant chez elle, « il ne faut donc pas que je vive. » La question se posait menaçante. Que deviendrait-elle s'il ne lui restait que ces 8 protestantes? Mais elle s'en voulut de s'être arrêtée à cette pensée. Il ne fallait pas exagérer le mauvais. Toutes ses élèves, assurément, ne lui seraient point ainsi enlevées les unes après les autres. Cependant, elle en perdit encore une dans des circonstances qui lui montrèrent que les exagérations de son inquiétude, si loin qu'elles allassent, pouvaient rester au-dessous de la réalité. Celle-là était la fille d'un pauvre diable de manœuvrier, employé par la commune à travailler au chemin et père de 7 jeunes enfants, dont une fille. Placé sous la main du maire et du conseil, cet ouvrier, qui ne gagnait pas assez pour nourrir sa famille et qui serait mort de faim avec elle, sans les secours qu'il recevait de différents côtés, avait dû envoyer sa fille à l'école communale sous peine d'être congédiée. La commune payait pour l'enfant, elle faisait travailler le père, celui-ci se devait à la commune, et il paraissait à Hélène que ce serait l'élève qu'elle perdrait la dernière. Cependant, un jeudi, elle vit venir à elle la mère, qui avait la figure bouleversée et les larmes aux yeux. « Ah, mademoiselle, ma bonne demoiselle, si vous ne nous sauvez pas, nous sommes perdus. Que faut-il faire? Oh mon Dieu, je n'oserais jamais vous le dire. » Et elle se lamenta, sans se laisser rassurer par ce qu'Hélène lui disait. À la fin, cependant, elle se décida. « Eh bien, il faut que vous renvoyiez notre fille de votre école. »« Renvoyez Louise? C'est une bonne petite fille. Oh, mademoiselle, ce n'est pas pour elle, c'est pour nous. Si elle ne va pas chez les sœurs, on nous supprime nos secours. » Et nous n'avons plus qu'à mourir de faim et de froid. Pensez donc à l'entrée de la mauvaise saison, cet enfant. Eh bien, envoyez-les chez les sœurs. Je ne veux pas que vous mouriez de faim. Et malheureusement, je ne peux pas vous venir en aide comme je le voudrais. Mais si nous l'envoyons chez les sœurs, monsieur le maire mettra mon homme à pied. Alors nous serons tout à fait à la mendicité. Et nous ne demandons qu'à travailler, mademoiselle. Je ne peux pas renvoyer ainsi votre fille qui n'a rien fait de mal. Elle fera tout le mal que vous voudrez. Oh, 200 blancs, 100 ans, pour que vous la renvoyiez. » Et la malheureuse fit un tableau de sa situation qui mit les larmes aux yeux d'Hélène. « Je parlerai à monsieur le maire, » dit-elle. « Oh, mademoiselle, ne faites pas ça, ou nous sommes perdus. Le maire ne peut rien pour nous, et les autres peuvent tout. On veut que ma fille aille chez les sœurs, il faut qu'elle y aille. » Hélène hésita un moment, mais la pitié avait pris son cœur. pouvait-elle, elle, misérable, se charger de la responsabilité des souffrances de ces malheureux plus misérables qu'elle? Eh bien, que votre fille se fasse renvoyer. Ah, mademoiselle, c'est vous la vraie sœur.